Europe 1, 13h, 14h, les carnets du monde.
Carnet du monde. Дневники мира.
Europana.
Европа 1.
Bem-vindos nos cadernos do mundo.
Sophie Larmoyer.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette petite vadrouille du dimanche, ce moment où nous écoutons ensemble le monde. Un monde qui voit la France en jaune fluo. Le mouvement de protestation populaire est souvent perçu de façon caricaturale ailleurs. Mais il y a tout de même des pays où les gilets jaunes font écho. Dans un instant, on ira en Grèce, en Espagne et aux États-Unis. On se penchera ensuite sur le sort d'Oleg Sentsov. Le cinéaste ukrainien recevra mardi le prix Sakharov pour la liberté de l'esprit que lui décerne le Parlement européen. Mais Sentsov ne sera pas à Strasbourg. Il a pris 20 ans pour s'être opposé à l'annexion de la Crimée par la Russie. Moscou l'a envoyé au pôle Nord.
C'est une colonie pénitentiaire pour les prisonniers qui ont commis des délits très graves. En russe, on dit que c'est un régime strict. Ça fait penser au Goulag. On l'a envoyé presque au pôle Nord. Pour ce serait difficile de ses proches de le visiter, de son avocat de le visiter.
Dans deux jours également, vote décisif au Parlement britannique sur le projet de divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Un accord qui a beaucoup d'opposants. Ça va être dur pour Theresa May. Comme ça l'est depuis des semaines.
Nous quitterons l'Union européenne en ordre le 29 mars 2019.
Dans les carnets, portrait croisé entre les deux chefs des négociations du Brexit, Theresa May et Michel Barnier, qui réussit l'exploit d'unir les 27 sur le sujet. Avec Nicolas Caron, on vous parlera de la réédition d'un auteur culte, l'américain Richard Brautigan. Et Joseph Chovanec vous racontera pourquoi il adore les aéroports en hiver. Les carnets du monde sont ouverts. Première destination, Grèce, Espagne, États-Unis.
Europe 1, les carnets du monde.
Évidemment, les images de voitures brûlées et de monuments saccagés à Paris ont vite fait le tour du monde. Et évidemment, ce mouvement des gilets jaunes, déjà si difficile à cerner ici en France, donne lieu à toutes sortes d'interprétations ailleurs. Un peu surprenantes parfois, faut bien le dire. La semaine dernière en Égypte, des experts ont estimé que l'organisation secrète des frères musulmans était derrière les destructions à Paris. Et puis rigolote, parfois au Burkina, de fausses déclarations humoristiques bien sûr circulent. L'Union africaine se préparerait à intervenir en France où le gouvernement burkinabé aurait envoyé un porte-avions pour exfiltrer ses ressortissants depuis Marseille. Voilà, plus sérieusement, trois de nos correspondants sont avec nous pour évoquer les gilets jaunes. Je salue Fabien Perrier en Grèce, Henri de la Guérie en Espagne et Xavier Yvon aux États-Unis. Bonjour les amis.
Bonjour.
Bonjour Sophie.
Voilà, quelle unité. On commence par la Grèce parce que c'est sans doute là que le parallèle est le plus évident. Fabien, depuis Athènes, les gilets jaunes rappellent aux Grecs un mouvement populaire qui avait émergé au début de la crise économique vers 2010.
Oui, c'était le mouvement Zen Plirono, ce qui en grec signifie « je ne paye pas ». Ces deux mots étaient sur toutes les lèvres à partir de 2010. Souvenez-vous, la Grèce était alors au bord du défaut de paiement. Ouais. Le gouvernement en place multipliait les coupes dans les salaires et les retraites et il augmentait les taxes, ce qui avait provoqué un énorme ras-le-bol chez les Grecs. Et c'est autour d'un homme, Ilias Papadopoulos, que le mouvement va se développer. Pour rentrer et partir de chez lui, cet ophtalmologue devait emprunter l'autoroute et payer tous les mois une somme importante pour le péage. Ouais. Il n'avait pas le choix. Ouais. Son combat a rencontré un fort écho dans la population. Au point que pendant des semaines, les voitures sont passées au péage sans payer, des Grecs sont entrés dans le métro sans ticket et dans les manifestations, des citoyens battaient le pavé derrière les banderoles de Zen Plirono, je ne paye pas. Peu à peu, ils ont même élargi leurs revendications.
Comme quoi ?
Par exemple, retirer tous les péages, autoroute gratuite pour tous, chauffage gratuit pour les familles de chômeurs et pour les pauvres, ou encore accès gratuit aux transports en commun.
Qu'est-ce qu'il est devenu ce mouvement, Fabien ? Qu'est-ce qu'il a donné ?
Il a été présent dans de nombreuses manifestations en Grèce, occupant parfois des places avec les indignés. Un député de Syriza, le parti de la gauche qui est aujourd'hui à la tête du gouvernement, m'a confié que ces mouvements avaient été autant de petits grains de sable sur lesquels Syriza s'était élargi et grâce auxquels le parti est arrivé au pouvoir. Tous les membres ne se sont toutefois pas transformés en électeurs de ce parti de gauche. Oui. Une autre partie, plus faible, est allée gonfler les rangs de la droite populiste.
Vous me disiez qu'aujourd'hui, il y a un autre mouvement populaire lié au fait de ne plus pouvoir s'en sortir.
Bah oui, avec la crise et les politiques appliquées en Grèce, le niveau des revenus a chuté de 30% en moyenne. Alors, dans beaucoup de foyers, la situation s'est dégradée. Par exemple, beaucoup de ménages sont devenus surendettés et aujourd'hui, ils ne peuvent plus rembourser les prêts. Les résidences principales sont mises aux enchères. Un mouvement s'est alors créé pour bloquer ces ventes. Et ça a marché dans un premier temps, mais depuis 8 mois, les ventes aux enchères sont réalisées sur Internet. Alors, les activistes continuent de se retrouver devant les offices des notaires, mais évidemment, ça devient beaucoup plus dur de bloquer ces enchères.
Merci Fabien pour ces explications. On prend la direction de l'Espagne, directement impactée par le mouvement, puisqu'en début de semaine, des milliers de camions se sont retrouvés bloqués à l'approche de la frontière près du Pertus. Et puis, cette semaine, Henri, on a vu des gilets jaunes dans la rue en Espagne.
Oui, absolument. C'était mardi lors d'un meeting de Manuel Valls dans le centre de Barcelone.
Voilà, Manuel Valls, candidat à la mairie de Barcelone, chahuté par des indépendantistes dont certains avaient enfilé ce fameux gilet jaune.
Oui, ce n'est évidemment pas un hasard, car ces gilets jaunes rencontrent une certaine sympathie chez les indépendantistes catalans, qui ont d'ailleurs fait de cette couleur leur symbole depuis déjà des années. Mmh. Et sur les réseaux sociaux, on peut lire leur admiration face à cette mobilisation. Au moins, ils prennent des risques, ils n'ont pas peur. On sent bien que les indépendantistes les plus radicaux aimeraient suivre le modèle des gilets jaunes et surtout s'inspirer de leur détermination. Mmh. L'année dernière, vous vous en souvenez, au plus fort de la crise entre Madrid et Barcelone, il n'y a eu qu'une ou deux journées de grève, quelques péages bloqués, mais ça n'a pas duré longtemps. Le mouvement a toujours voulu être pacifique, mais c'est vrai que cela n'a rien donné. Alors certains pensent qu'en bloquant la région, sans forcément d'ailleurs écarter des actions violentes, eh bien, la Catalogne finirait par obtenir son indépendance.
Et donc, il se remobilise, cette fois avec l'accessoire gilet jaune en plus ?
Oui, figurez-vous qu'un appel est lancé pour bloquer la Catalogne le 21 décembre prochain. Ce jour-là, le gouvernement espagnol vient à Barcelone pour un conseil des ministres délocalisé et des indépendantistes appellent à manifester avec ce gilet jaune pour dire au pouvoir central qu'il n'est pas le bienvenu. Mmh. Des actions de boycott, des blocages des axes routiers sont prévus. Tout ça sous la bienveillance des autorités catalanes. Oui. Vous l'avez compris, les revendications sont tout autres, mais les séparatistes veulent s'inspirer des méthodes des gilets jaunes.
Henri, pour terminer, on se souvient des indignés espagnols qui avait occupé des villes pendant des semaines en 2011. Est-ce qu'on peut rapprocher les deux mouvements ?
Alors oui et non, les indignés étaient également, c'était également un mouvement spontané de colère contre la classe politique, mais ça a eu lieu dans un moment de très grave crise économique. C'était un mouvement urbain très marqué à gauche, majoritairement composé de jeunes. Mmh. Un mouvement qui a d'ailleurs donné naissance à Podemos, le parti qu'on connaît de la gauche radicale. Et à l'époque, il n'y avait eu aucun blocage, pas de violence ni de grève, mais une occupation des places publiques. Et mais tout de même, c'est vrai, Sophie, qu'on avait vu alors des gilets jaunes dans les manifs, c'était les Yayo Flautas, c'est la branche senior des indignés, des papis et mamie en colère.
Merci Henri. Des Yayo Flautas, on passe aux Yellow Vests. C'est comme ça qu'on dit gilets jaunes dans les médias américains, Xavier.
Oui, exactement. Des médias américains qui ont beaucoup diffusé les images de violence. Alors vous avez d'un côté les grands journaux qui tentent de comprendre ce phénomène des Yellow Vests. Le New York Times, par exemple, est allé en reportage à Guéret, dans la Creuse. Le Washington Post s'est rendu d'un éditorial très sévère contre Emmanuel Macron. Mais ce sont les médias conservateurs qui en font peut-être le plus pour conforter leur vision caricaturale de la France et de son état-providence, forcément voué à l'échec. Écoutez ce petit montage de ce qui s'est dit, par exemple, cette semaine sur Fox News, chaîne d'info, je le rappelle, la plus regardée du pays.
Vous avez peut-être vu ces vidéos de manifestations en France et vous vous êtes dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Bon, j'ai entendu dire que François Macron...
Emmanuel.
Ah oui, Emmanuel. On dirait que tous les Français s'appellent François, non ?
La grande question pour les gens en France, c'est que si vous dépensez autant dans des programmes gouvernementaux et si vous n'augmentez pas les impôts, alors il va falloir couper dans les aides sociales. Et vous croyez qu'ils vont le faire ? Non !
Et puis il faudrait encore que les Français travaillent plus de 4 jours par semaine et puis des journées entières, pas avec 3 heures de pause, et qu'ils arrêtent de partir tout l'été en vacances.
Et surtout, les médias conservateurs insistent, ce rejet d'une taxe sur le carburant, eh bien c'est la preuve que l'accord de Paris sur le climat est mauvais pour l'économie. Et Donald Trump lui-même en a profité, évidemment, sur Twitter pour dire que ces manifestations en France, eh bien, ça lui donnait raison.
Évidemment. Un mouvement comme celui-là, qui est lié, comme les gilets jaunes, qui est lié au coût de la vie, l'impression d'abandon, une fracture ville-campagne aussi, ça évoque quoi aux États-Unis ? Est-ce que vous avez des mouvements similaires ?
Alors non, pas de mouvement similaire à proprement parler, mais il y a des points communs entre les gilets jaunes français et ceux qui ici portent, vous savez, les fameuses casquettes rouges frappées du slogan trumpiste « Make America Great Again ». Alors attention, je ne dis pas évidemment que les gilets jaunes sont des trumpistes, mais il est possible de dresser des parallèles. Ici, c'est l'Amérique périphérique qui a porté Trump au pouvoir, une population qui se sent délaissée, éloignée des grands centres urbains, laissée pour compte de la mondialisation, que ce soit dans les campagnes de l'Indiana ou dans les petites villes en déliquescence de l'Ohio désindustrialisée. C'est une colère similaire qui les motive, une vie quotidienne de plus en plus dure, coûteuse et surtout l'impression que tout le monde s'en fiche. Conséquence, on a vu ici aux États-Unis le même rejet des partis traditionnels, des élites et des médias, une méfiance généralisée pour tout ce qui vient d'en haut. Et ça, bah, c'est le terreau fertile sur lequel poussent le complotisme et les fake news. Ce que vous voyez maintenant en France en ce moment avec, par exemple, le pacte des migrations de l'ONU qui conduirait à l'invasion de la France par les migrants, bah, on a eu ça ici. Il y a encore ces mêmes théories sans fondement. Et c'est pareil, ça circule en boucle sur les réseaux sociaux. Je vais vous donner un exemple qui était très frappant pendant la campagne présidentielle de 2016. Les complotistes de l'ultra-droite ici expliquaient qu'Hillary Clinton et son directeur de campagne dirigeait un réseau de pédophilie depuis les sous-sols d'une pizzeria de Washington. Et bien, résultat, un homme a fini par débarquer dans le restaurant armé d'un fusil pour, pensait-il, sauver les enfants. Et on voit des histoires aussi délirantes fleurir en France dans les cercles gilets jaunes. La grande différence, c'est qu'ici, Donald Trump a, lui, trouvé le moyen de catalyser cette colère. Et c'est désormais le chef des casquettes rouges qui est aujourd'hui au pouvoir.
Voilà, un vrai sujet de réflexion à cette analogie entre les profils des gilets jaunes et des casquettes rouges, avec toutes les nuances que vous avez posées, évidemment. Merci Xavier, je dis aussi merci à Fabien Perrier, à Henri de Laguéry. On sait maintenant dire Yellow Vests en anglais, Kitrina Yileka en grec et Chalecos Amarillos en espagnol. C'est toujours ça. Merci, à bientôt.
À bientôt.
À bientôt.
Europe 1.
Prochaine destination des carnets, quelque part entre Strasbourg et le pôle Nord. On se penche sur le sort d'Oleg Sentsov, le réalisateur ukrainien envoyé en colonie pénitentiaire par la Russie et à qui sera décerné le prix Sakharov dans deux jours.
Europe 1.
13h13, on retrouve Sophie Lermoyer pour la suite des Carnets du Monde. On va prendre la direction de la Russie, Sophie.
Mercredi prochain, le Parlement européen décernera le prix Sakharov pour la liberté de l'esprit. Et cette année, la prestigieuse récompense sera attribuée à Oleg Sentsov, ce cinéaste ukrainien qui purge une peine de 20 ans de colonie pénitentiaire en Russie pour s'être opposé à l'annexion de la Crimée par Vladimir Poutine en 2014. À Moscou, on retrouve la correspondante d'Europe 1, Elena Voloshin. Bonjour Elena.
Bonjour Sophie.
Il faut que vous nous rappeliez d'abord qui est Oleg Sentsov et pourquoi son combat lui a valu aujourd'hui cette récompense.
Alors Oleg Sentsov, c'est un cinéaste, un réalisateur, hein, vous le disiez. Il est originaire de Crimée, cette péninsule ukrainienne annexée par la Russie en 2014. Vous vous souvenez, ça s'est passé dans la foulée de la révolution pro-européenne en Ukraine qui avait chassé du pouvoir le président pro-russe Viktor Yanukovych. Et Vladimir Poutine s'en est pris aux dissidents, à ceux qui s'opposaient à cette annexion. Oleg Sentsov en fait partie. Il a été arrêté par la FSB avec trois autres activistes, extradés vers Moscou. Et en août 2015, il est condamné à 20 ans de colonie pénitentiaire pour terrorisme.
Alors, la communauté internationale dénonce un procès fabriqué de toutes pièces. Des hommes politiques, des personnalités culturelles, des citoyens du monde entier se mobilisent pour sa libération. Est-ce qu'on peut dire, Elena, Oleg Sentsov est devenu une icône de la lutte pour les libertés fondamentales en Russie?
Oui, sans doute, parce que cette histoire de la Crimée, elle est extrêmement symbolique. L'annexion a marqué un vrai tournant dans la politique de Vladimir Poutine. C'était une manière, en fait, de montrer qu'il comptait dominer la scène géopolitique mondiale. Ouais. Et tous ceux qui s'opposaient à cette domination étaient et sont encore durement réprimés. Depuis cette crise avec l'Ukraine, quelques 70 prisonniers politiques ukrainiens sont d'ailleurs détenus en Russie. Le but d'Oleg Sentsov, c'est de les faire libérer.
D'où sa grande grève de la faim, 145 jours.
Oui, exactement. Une grève de la faim démarrée en mai 2018. C'était pile poil un mois avant le lancement de la Coupe du Monde de football. À Moscou, j'ai rencontré Zoya Svetova, une défenseure des droits de l'homme qui est en contact permanent avec Oleg Sentsov. Et en août, elle a pu aller le voir dans sa colonie pénitentiaire alors qu'il était en grève de la faim depuis trois mois.
Quand je l'ai vu, c'était un homme qui a perdu 15 kilos, très maigre, avec une voix très faible. On a parlé pendant deux heures, mais il fermait les yeux parce qu'il était difficile pour lui de parler, mais dans un état d'esprit très très fort. Ce championnat de foot, il a compris que c'est une chance pour lui de faire la grève de la faim parce qu'il voulait de cette façon-là attirer l'attention du monde entier au problème des prisonniers politiques ukrainiens qui purgent leur peine en Russie. Il a essayé et en fait, il a échoué. C'est-à-dire que Poutine n'a pas cédé aux demandes du monde entier.
Il a perdu espoir aujourd'hui ?
Je pense que non. Je pense qu'il n'a pas perdu l'espoir. Mais à mon avis, Oleg Sentsov est un homme avec un caractère très fort et qui sait très bien se concentrer sur une telle ou telle tâche. Cet été, il avait 7 buts de libérer les prisonniers politiques ukrainiens, de les défendre. Maintenant, quand ça n'a pas marché, donc il a un autre but, c'est de faire un film.
De faire un film ? C'est possible, ça, enfermé dans sa colonie pénitentiaire, Elena ?
Alors Oleg Sentsov, il travaille actuellement à distance avec un co-réalisateur en Ukraine. Ensemble, ils mettent en scène une anti-utopie où il est justement question d'une dictature. Ce film, il s'appellera Les Numéros. Il sera doublé d'une pièce de théâtre. D'ailleurs, la première a eu lieu à Kiev pas plus tard que ce vendredi.
Donc il est toujours combatif, mais on imagine quand même que cette grève de la faim a eu des conséquences sur sa santé, sans doute graves.
Oui, il a arrêté uniquement parce qu'on le menaçait de le nourrir de force, mais les médecins évoquent des conséquences irréversibles pour ses reins et son foie. Il faut aussi voir dans quelles conditions il est détenu. Cette colonie, elle se trouve à 5000 km de la Crimée où vit sa famille. Zoya Svetova, elle a fait le voyage, elle m'a livré ses impressions.
C'est une colonie pénitentiaire pour les prisonniers qui ont commis des délits très graves. En russe, on dit que c'est un régime strict. C'est au pôle Nord, où il y a le climat très dur. Je pense qu'en ce moment, ça doit être 40 degrés. C'est très froid en hiver. Et il y a seulement 3 mois d'été ou de printemps.
Ça fait penser au goulag.
Oui, bien sûr, ça fait penser au goulag. On l'a envoyé presque au pôle Nord. Pour ce serait difficile de ses proches de le visiter, de son avocat de le visiter. Et pour qu'on n'ait pas des manifestations devant les portes de la prison.
Elena, on a vraiment l'impression que Vladimir Poutine en fait une affaire de principe. Que sait-on des négociations pour le faire libérer ?
Eh bien, on sait peu de choses en réalité. Cela semble au point mort. En août dernier, la défenseure russe officielle des droits de l'homme, Tatiana Moskalkova, affirmait qu'il était impossible d'échanger Oleg Sentsov contre des prisonniers russes détenus en Ukraine. Et ce, pour la bonne raison que lui-même, Oleg Sentsov, du fait de l'annexion de la Crimée, était lui-même devenu un citoyen russe. Alors, plusieurs pays continuent néanmoins de se mobiliser pour sa libération. C'est le cas de la France notamment. J'ai pu en parler avec François Croquette, l'ambassadeur français pour les droits de l'homme. Il est venu il y a quelques jours à Moscou pour s'entretenir justement du cas Sentsov avec son homologue Tatiana Moskalkova.
C'est un dossier qui nous a beaucoup mobilisés. Il nous semble essentiel que des réponses soient données aux interpellations qui ont été faites de par le monde entier. Ce sont les dirigeants français, allemands, américains qui se sont inquiétés. Ce sont les artistes, les cinéastes, les écrivains qui ont interpellé le pouvoir russe. Et pour l'instant, nous avons le sentiment de ne pas avoir été entendus. Ça n'est pas pour autant qu'on va baisser les bras. Clairement, il y a une difficulté au plus haut niveau ici en Russie à paraître céder à ce qui serait une demande de l'Occident. Il y a une volonté de ne pas paraître faible.
Elena, ce prix Sakharov qui va être remis mardi symboliquement à Sentsov, est-ce qu'il peut avoir quelque impact ?
Alors cette question, on est allé la poser à la cousine d'Oleg Sentsov, Natalia Kaplan. Elle habite à Kiev et c'est elle qui ira à Strasbourg pour recevoir le prix et lire un message qu'a rédigé Oleg Sentsov. Écoutez-la.
Ce prix donne une très très forte impulsion pour que les politiques agissent de façon plus active. Lorsque personne ne prend parti pour un prisonnier politique, il a beaucoup moins de chances d'être libéré. Et puis au moins, nous savons qu'il n'est pas torturé, parce que les autres prisonniers politiques, ceux dont on ne parle pas, ils vivent un enfer bien pire qu'aux legs. On ne les laisse pas voir leurs familles et leurs avocats, ils ne reçoivent pas leurs courriers. Pour Oleg, tout ceci va plus ou moins. Et c'est grâce à ce soutien. Si nous perdons le soutien de l'opinion publique et le soutien international, va savoir ce qu'il deviendra.
Justement, ces autres prisonniers ukrainiens, les 70 autres que Sentsov voulait faire libérer, on sait dans quelles conditions eux sont détenus ?
Alors un grand nombre d'entre eux se trouvent aussi dans des colonies pénitentiaires à régime sévère, parfois accusés de terrorisme, trahison, espionnage. Et pas plus tard que le week-end dernier, la Russie a capturé 24 marins militaires ukrainiens qui tentaient de passer le détroit de Kerch au large de la Crimée. Ils ont été inculpés pour franchissement illégal de la frontière russe et il y a fort à craindre qu'ils ne rejoignent eux aussi cette liste déjà longue de prisonniers politiques ukrainiens.
Merci beaucoup Elena Voloshin. On voulait avec vous braquer le projecteur sur la condition d'Oleg Sentsov qui recevra donc mardi prochain, dans 3 jours, le prix Sakharov au Parlement européen. Merci Elena, à bientôt dans les carnets.
Merci à vous Sophie.
Europe 1.
À suivre, la littérature étrangère au menu des carnets, une histoire de détective, un auteur culte américain. À tout de suite.
Europe 1, les carnets du monde.
Europe 1.
13h24, vous écoutez les carnets du monde et comme chaque dimanche, Sophie Larmoyer ne résiste pas à un petit conseil de littérature étrangère.
Un livre dans le monde, un livre repéré et lu pour nous par Nicolas Caro. Bonjour Nicolas.
Bonjour Sophie.
Vous nous emmenez en Amérique aujourd'hui avec un roman culte d'un écrivain
culte.
Ouais. Les éditions Christian Bourgois republient en petit format des œuvres de Richard Brautigan, l'un des plus grands auteurs des années 60. L'un de ses romans s'appelle « Un privé à Babylone ». C'est un chef-d'œuvre. Ça commence comme ça. « Le 2 janvier 1942 m'a apporté de bonnes nouvelles et de mauvaises nouvelles. D'abord, les bonnes nouvelles. J'ai appris que j'étais réformé comme caractériel et que je n'allais pas partir à la Seconde Guerre mondiale jouer le petit soldat. »
Effectivement, plutôt bonne nouvelle.
Voilà.
La mauvaise ?
Alors la mauvaise, je n'avais pas de balles pour mon pistolet. Qu'est-ce que j'allais bien pouvoir faire ? J'avais pas un sous-vaillant et on m'aurait pas fait crédit de 25 cents dans tout San Francisco.
Mais pourquoi aurait-il besoin de balles ?
Parce qu'il est détective privé. Il s'appelle Card. Il a raté les concours pour être policier et il essaye de trouver des missions en tant que détective privé. Mais il est nul. Il a une dégaine de clodo et personne veut l'embaucher. Sauf que là, il vient d'avoir une proposition, un client. Enfin, sauf que le client, par souci de crédibilité, exige que Card viennent à leur rendez-vous avec un pistolet, ça il a, mais chargé. Sauf qu'il donc, il n'a plus de balles et c'est il ça. N'a pas d'argent. Alors on le suit dans San Francisco à la recherche de quelqu'un qui pourrait soit lui avancer un peu d'argent, soit lui donner des balles, parce que Card a vraiment besoin d'argent. Là, il est complètement à sec. Sa propriétaire le pourchasse pour qu'il paye son loyer. Et mon loyer, où qu'il est ? Et Clodo, qu'elle me criait du haut du palier où se trouvait son appartement. Il lui promet donc toujours de la payer le lendemain, mais elle ne le croit plus beaucoup. Ouais. Elle avait dans les 60 ans, dit-il. S'était mariée 5 fois et avait perdu ses 5 époux, les fumiers de Vénard. Et les excès de langage ne s'arrêteront pas là, parce que rien ne s'arrange jamais comme prévu pour Card. Et plus il a des ennuis, moins il surveille son langage.
Ça s'appelle Un privé à Babylone. Quel est le rapport avec Babylone ?
Eh bien, aucun, justement. Babylone, c'est un monde imaginaire que Card s'est créé pour échapper à sa loose quotidienne. Mmh. Il rêve donc à Babylone. Là-bas, il est un détective privé de haute volée, assisté par d'autres détectives moins charismatiques quand même que lui, et amoureux de sa secrétaire hyper sexy. Là-bas, c'est le succès intégral. Le problème, c'est qu'il rêve un peu trop de Babylone et ça l'empêche de faire quoi que ce soit dans la vraie vie. C'est à cause de Babylone qu'il a raté une carrière de joueur de baseball professionnel, qu'il a raté le concours de police et qu'il rate la plupart de ses missions. Dès qu'il est confronté à une difficulté, il se met à y penser, comme là, quand il essaye de joindre quelqu'un depuis une cabine téléphonique avec ses derniers cents et que non seulement personne ne répond, mais en plus la machine ne lui rend pas son argent. Peut pas me laisser abattre. Si je me laisse avoir par tout ça, je commence à penser à Babylone et alors ça ne fait qu'empirer, parce que je préfère penser à Babylone qu'à n'importe quoi d'autre. Et quand je commence à penser à Babylone, je peux faire que penser à Babylone et puis ma vie entière part à volo.
Eh ben, au moins, il en a conscience.
Ouais, mais il est sans arrêt réveillé par quelqu'un qui le ramène dans le monde réel. Comme dans ce passage, un vieux compagnon d'armes de la guerre civile espagnole le réveille. « Je me suis levé et nous sommes serrés la main. Il a fallu que je lui serre la gauche vu que sa droite n'était plus là. Je me suis rappelé le jour où il se l'était fait sauter. Pour lui, ça n'avait pas été une journée épatante, vu que de son métier, il était jongleur et magicien. Quand il a vu sa main arrachée par terre à côté de lui, tout ce qu'il a trouvé à dire, ça a été « Eh ben voilà, un tour que je ne suis pas prêt de pouvoir recommencer ».
C'est assez drôle pour une histoire de détective.
Ouais, Brautigan s'empare du genre pour le parodier, en fait. Ouais. Il a fait ça pour d'autres genres aussi. Il faut dire que c'est un touche-à-tout, Brautigan. Il a écrit beaucoup de poèmes aussi, par exemple. Je laisse Nicolas Richard, l'un de ses traducteurs, vous le présenter.
Il commence à écrire des poèmes. Il fait l'expérience de la dèche. Vraiment, il rame à San Francisco pendant longtemps. Et puis, à partir du milieu des années 60, il écrit des romans qui deviennent des succès assez phénoménaux. Au point qu'il a, pendant une brève période, il a un statut de rockstar, en fait.
Vous disiez, Nicolas, qu'il a écrit des poèmes aussi ?
Énormément et fabuleux, comme celui-ci, par exemple, « Baiser fantôme ». Il n'y a pas pire enfer que de se rappeler intensément un baiser qui n'est pas venu.
Très joli.
C'est beau, hein ? Ouais. Mais les poèmes, ça ne nourrit pas son homme et surtout, ça ne paye pas le loyer.
Il y a des poèmes qui ont été retrouvés assez récemment, il y a quelques années à peine. Et à l'époque, il venait du nord, de l'ouest des États-Unis. Et il avait donné un recueil entier de poèmes à sa logeuse en lui disant ben voilà, je peux rien vous payer, j'ai pas un rond. En revanche, je vous laisse ce recueil, ça vous fera un matelas plus tard. Et effectivement, le recueil était retrouvé dans un grenier beaucoup plus tard et effectivement, voilà, ça s'est pas passé inaperçu.
Toujours soutenir les poètes.
Toujours, mais le meilleur moyen, c'est encore d'acheter leurs livres. Brautigan est mort maintenant, mais il faut soutenir sa littérature. Je vous conseille donc Un privé à Babylone chez Christian Bourgois.
Traduction ?
Admirable traduction de Marc Chénetier.
Est-ce que vous avez encore un petit poème pour la route, Nicolas ?
Ah bah oui, si vous voulez. D'ailleurs, je l'offre à Gabriel, un petit garçon qui a écrit cette semaine un poème à une petite fille et il s'est fait moquer par toute la classe. Bah, je lui lis le poème de Brautigan qui s'appelle « Toutes les filles devraient avoir un poème ».« Toutes les filles devraient avoir un poème écrit pour elles, même si nous devons pour cela retourner cette bon dieu de planète sans dessus-dessous ».
C'est dit. Merci Nicolas.
Merci Sophie.
Europe 1.
Bien moins poétique, mais très important. Une nouvelle étape vers le Brexit sera franchie mardi avec le vote très incertain du Parlement britannique sur l'accord. L'occasion pour nous de dresser le portrait des deux patrons de la négo, Theresa May et Michel Barnier.
Europe 1, les carnets du monde.
Europe 1.
Nous sommes avec Sophie Larmoyer jusqu'à 14h sur Europe 1, 13h32. À présent, les carnets du monde braquent ses projecteurs sur deux négociateurs du Brexit.
Mardi, après-demain, journée cruciale pour la Grande-Bretagne et pour l'Europe, les députés britanniques vont se prononcer sur l'accord de divorce conclu en vue du Brexit. C'est vraiment un moment charnière et c'est l'occasion pour nous de dresser les portraits croisés des deux têtes de file de cette négociation historique, Theresa May outre-Manche et Michel Barnier à Bruxelles. Londres d'abord, où l'on rejoint Anaïs Cordoba. Bonjour Anaïs.
Bonjour Sophie.
Ce vote de mardi sera décisif pour l'avenir de Theresa May, pour l'héritage qu'elle laissera dans l'histoire du pays. Et il se présente très mal, hein, on peut le dire. Tout le monde la donne perdante, car ceux qui veulent rester dans l'Union européenne, comme les partisans d'un Brexit dur, rejettent cet accord. Mais c'est vrai qu'on a cru tellement de fois depuis deux ans que Theresa May allait trébucher, s'écrouler, qu'on se demande si malgré tout ça ne va pas passer cette fois encore. Il y a une plaisanterie très en vogue en Grande-Bretagne. Anaïs, c'est vous qui me l'avez raconté ?
Oui, si on dit que si une catastrophe nucléaire anéantissait la Terre, seuls survivraient les cafards et aussi Theresa May.
Humour so British. On se demande ce qui pousse Theresa May à avancer quoi qu'il arrive. Ça a été particulièrement rude chez elle ces dernières semaines. Mmh. Première question toute simple, Anaïs, est-ce qu'elle tient le coup ?
Alors c'est une femme éreintée, hein, marquée physiquement par cette bataille sans répit. Depuis que l'accord a été conclu avec Bruxelles, elle est dans l'arène ici pour le défendre. Mais ce n'est pas un contre-un. À la Chambre des communes, Theresa May fait face à au moins 100 rebelles de sa propre famille politique. Pendant 3 heures durant, le 15 novembre, avant même de conclure avec Bruxelles, elle a été huée et invectivée par les conservateurs. Écoutez ce petit extrait.
Nous quitterons l'Union européenne en ordre le 29 mars 2019.
Ouais, c'est violent. Hein. Alors Theresa May, elle vient d'affronter 18 mois d'âpres négociations à Bruxelles, l'abandon de plusieurs ministres importants, ses députés qui se rebellent et qui vraiment ne l'aménagent pas. C'est très dur, son autorité est défiée et pourtant Theresa May ne flanche pas.
Non, et finalement cette résistance impressionne les Britanniques. Hein. D'ailleurs, cette séquence de lynchage en règle au Parlement a reboosté sa popularité. Écoutez Lucia, une professeure de français à la fac, elle est admirative de Theresa May alors qu'elle n'a jamais voté conservateur.
Elle n'a pas renoncé. David Cameron, dès qu'il y a eu la catastrophe du Brexit, eh bien, il a renoncé. Il a tout laissé tomber. Ça, c'est une couardise, mais alors incroyable. Par contre, Theresa May, malgré toutes les critiques, tout le monde s'est moqué d'elle, eh bien, elle a persisté. Je pense qu'elle a toujours voulu avoir un Brexit qui, quand même, arrivait plus ou moins au mieux possible, accommoder enfin, les opinions de tout le monde. Quoi. Et là, je lui tire mon chapeau. C'est un pari impossible. Hein. Personne ne peut gagner ce pari.
Rien n'est impossible, semble se dire Theresa May. Elle a été élevée par un pasteur anglican qui lui a transmis le sens du devoir, mais aussi l'importance du service public. Pour elle, le Brexit, c'est une mission qu'elle doit accomplir pour son pays, coûte que coûte. Écoutez Anne McElvoy, journaliste politique à The Economist, qui a rencontré Theresa May récemment.
C'est la fille de vicaire qui veut bien faire. Elle a mis de côté ses propres convictions. Elle voulait rester dans l'Union européenne. Mais elle considère que son devoir est d'obtenir un accord. Après 30 ans de carrière, elle est devenue première ministre dans des conditions difficiles. Elle s'est trompée en provoquant les élections anticipées. Elle a fait une erreur de jugement et le résultat a été catastrophique. Elle le sait et elle veut réparer ça. Donc c'est un drôle de mélange d'obstination, mais aussi de fierté. Elle veut franchir la ligne d'arrivée. C'est ça, très certainement, qui la motive.
Cette résistance qui vire parfois à l'entêtement, Anaïs, c'est sa force, mais c'est aussi sa faiblesse.
Oui, écoutez la réaction de ce londonien qui illustre assez bien l'agacement que ça peut provoquer chez certains.
C'est une détermination que certains admirent, mais pas moi, parce que je trouve que c'est presque un manque d'intelligence. C'est fou de prendre cette position. Elle a simplement uni le pays contre son accord.
Parfois, dans les interviews, elle apparaît déshumanisée avec des formules qu'elle répète. Brexit means Brexit. Le Brexit, ça veut dire le Brexit, une phrase vide de sens qui, pendant des mois, lui a évité de donner des détails sur sa vision. Et puis, elle n'est pas à l'aise pour parler en public, ce qui fait le bonheur, évidemment, des caricaturistes anglais, comme l'a observé Rodney Barker, professeur de sciences politiques.
Satirists.
La presse satirique lui a donné ce surnom de Maybot, car elle agit comme un robot. Elle répète les mêmes choses encore et encore. Mais c'est le résultat d'une obstination presque perverse. C'est ça que je vais faire, sans vraiment prendre en compte les pour et les contre, les difficultés, les opportunités. Et ça se traduit dans ce fameux dessin d'une caricaturiste. On la voit qui conduit un camion et plusieurs roues sont crevées, il y a une fuite d'essence, mais on y va quand même car c'est notre travail. On doit amener le camion au bout de la route.
Alors Anaïs, c'est la deuxième femme première ministre outre-Manche. Certains l'ont comparée à Margaret Thatcher, mais elle n'a ni son charisme ni son sens politique.
Non, elle en est consciente et elle compense par une maîtrise extraordinaire de ses dossiers. C'est la bûcheuse, la bonne élève, tout le monde le sait à Westminster. Personne ne bat Theresa May sur les détails. Anne McElvoy de The Economist.
She's a bit stiff. I remember
elle est le contraire d'amusante. Un jour, avec des collègues journalistes, nous avions exprimé le souhait de mieux la connaître. Et finalement, elle nous a invités à venir parler politique autour d'un verre. Et je me souviens de cette phrase de mon collègue qui disait que ça avait été les plus longues 90 minutes de sa vie en incluant le gin tonic. L'un de ses anciens conseillers me disait que l'image qu'elle préfère d'elle-même est celle d'une femme penchée sur ses dossiers le soir avec pour seul éclairage une petite lampe. Elle est à l'opposé du politique jupitérien comme Emmanuel Macron ou d'autres politiques britanniques.
Ouais, ça me rappelle cette interview où on lui a demandé ce qu'elle avait fait de plus fou dans sa vie et elle a eu cette réponse mythique, courir dans un champ de blé.
Oui, ça a fait sourire ici aussi. Ouais. La seule excentricité qu'elle se permet, c'est cette passion pour les chaussures impression léopard ou tigre. Pour le reste, Theresa May n'est pas fun. Elle est appliquée, un bourreau de travail. Ce qui explique sans doute pourquoi elle est toujours en place. Le Brexit, c'est une tâche colossale et ingrate à laquelle personne d'autre n'a vraiment envie de se mesurer.
Oui, elle tient droit dans ses bottines léopard. Donc merci Anaïs.
Europe 1.
Et en face dans la négo, un homme qui n'a pas non plus la réputation d'être très fun, mais qui s'est révélé aux yeux de beaucoup, Michel Barnier. On va retrouver Isabelle Horry à Bruxelles pour en parler.
Europe 1. Les carnets du monde.
Europe 1.
Les carnets du monde, c'est avec vous Sophie Larmoyer. Après Londres, eh bien notre regard se tourne vers Bruxelles où ont eu lieu les discussions sur le Brexit.
À deux jours du vote crucial au Parlement britannique sur l'accord de Brexit, dans les carnets on s'arrête sur les deux figures de proue de cette négociation. Theresa May, on vient d'en parler. Et puis de l'autre côté du Channel sur le continent, ce n'est pas un Premier ministre ni même un président d'institution européenne qui incarne le Brexit. Non, la grande figure, c'est un Français de 67 ans, Michel Barnier, le négociateur en chef. Depuis des semaines, dans les 27 pays de l'Union, on tresse des lauriers à l'ancien ministre de l'Agriculture de Nicolas Sarkozy, ce Savoyard souvent sous-estimé à Paris. Bonjour Isabelle Horry.
Bonjour Sophie.
Isabelle, pourquoi tous ces éloges maintenant? Le feuilleton du Brexit n'est pas terminé, le vote de Westminster peut encore tout faire échouer?
Vous avez tout à fait raison. C'est qu'à la toute fin du processus qu'on saura si la mission de Michel Barnier a été un succès. C'est dit, on ne peut quand même pas le tenir pour responsable des déchirements internes au Royaume-Uni. Lui, il a mené la négociation jusqu'à un accord accepté par le gouvernement britannique.
Mais son véritable exploit n'est pas là en réalité.
Non, son véritable exploit, c'est qu'il a réussi à garder l'unité des 27 pays de l'Union pendant plus de deux ans. Les 27 tous d'accord. Sérieusement, on s'en frotte encore les yeux quand on voit comme ils se disputent sur tout le reste, de la taxe sur les géants du numérique, la taxe GAFA, en passant par l'immigration. Un exploit que salue par exemple le social-démocrate allemand Joe Leinen.
Il fallait avoir quelqu'un qui connaît l'Union européenne, qui connaît les difficultés avec des opinions, des cultures différentes. Et je crois Michel qui était de la Commission européenne, qu'il était ministre de l'Europe, de la France. Il était l'homme de première classe pour le faire. Et un autre aurait eu beaucoup plus de barrières et de difficultés.
Ce serait donc sa grande expérience de l'Europe qui explique son succès, Isabelle?
Oui, c'est en partie ça. Alors Michel Barnier, c'est pas seulement l'organisateur des JO d'Albertville en 92. Il a été deux fois commissaire européen, il a été ministre de l'Europe, ministre de l'Agriculture. Donc il connaît l'Union européenne et son fonctionnement comme sa poche. Mais surtout, son succès tient à sa méthode. Alors déjà, il sait très bien s'entourer. Et là, il a vraiment choisi une équipe ultra compétente de la vie générale. Et puis, en permanence, il a informé les Européens de ce qu'il faisait, de sa stratégie. Il est allé parler aux diplomates, aux députés européens. Il a fait des voyages quasiment chaque semaine dans chacun des 27 pays, ce que même le président de la Commission européenne ne fait pas. L'élu roumain Christian Preda a apprécié.
Il a fait un travail de terrain. Il est allé, par exemple, dans mon pays, voir toutes les différentes parties politiques, le président, le premier ministre, il a expliqué. Il est venu aussi dans nos groupes politiques pour nous montrer pas à pas ce qu'il était en train de négocier. Donc il nous a tenus informés tout au long du processus, mais j'allais dire en toute modestie, sans faire la vedette. Donc ce qui est aussi une qualité, je trouve.
En toute modestie, sans faire la vedette, c'est rare d'entendre ces qualificatifs pour un homme politique français.
Oui, mais c'est vrai hein, que Michel Barnier met toujours les formes, il est toujours poli, toujours respectueux à l'ancienne, si j'ose dire. Depuis toutes ces années que je le croise à Bruxelles, il commence ses conférences de presse en saluant chacun et chacune d'entre nous, toujours de la même manière. C'est un peu devenu un gimmick et ça n'a pas raté le soir du 14 novembre dernier quand il est venu nous présenter les 585 pages de l'accord de divorce.
Bonsoir à chacune et chacun d'entre vous. Ce projet d'accord de retrait comprend... Mesdames et messieurs, 185 articles, 3 protocoles et plusieurs annexes. Je forme le vœu d'ailleurs que chacune et chacun d'entre vous prenne le temps de lire calmement et attentivement ce texte.
Et bien sûr, Isabelle, vous les avez lus, ces centaines de pages.
Bon, on va dire que ça, c'est de l'humour à la Barnier. Alors, il fait un effort. C'est pas son point fort. Il raconte toujours les mêmes anecdotes. Ouais. Par exemple, qu'il a voté pour la première fois en 1972 au référendum pour l'entrée du Royaume-Uni dans l'Union. Alors, ça fait sourire les journalistes qui l'ont entendu au moins 10 fois, cette histoire, depuis 2 ans. Mais bon, son côté formel fait partie du personnage aux yeux des Britanniques. Écoutez le correspondant du Financial Times, Jim Brunsdon.
Il a une image foncée très classique pour les Britanniques. Il est un peu comme Chirac, quoi. Donc, c'est ce monsieur très correct, très. Il est bien habillé. Même sa façon de gérer une conférence de presse, c'est très formel. C'est un peu l'inverse de nos politiciens. Et ça, pour nous, ça a quelque chose de français. Au Royaume-Uni, il est vu comme l'homme de fer de l'Union européenne. Il n'est pas vu comme quelqu'un vieux ou faible. C'est complètement l'inverse. Il est vu comme quelqu'un qui représente la puissance de Bruxelles dans ces négociations.
L'homme de fer, carrément, c'est pas exactement la réputation qu'a Michel Barnier en France. Il n'a jamais eu les premiers rôles.
Oui, ce gaulliste savoyard qui n'a pas fait l'ENA s'est en réalité épanoui à Bruxelles. Tout ce qui constituait des défauts à Paris devient ici des qualités. Alors il construit des compromis, pas à pas, en bon montagnard. C'est la vie de Michel Dantin. Lui, il a travaillé avec Barnier en Savoie et à Paris et aujourd'hui, il est député européen pour les Républicains.
En plaisantant, je dirais que c'est parce qu'il est savoyard. Il a le sens de l'ascension à pas lent, mais à pas sûr pour gagner le sommet. Il est là pour construire quelque chose, construire un projet, et non pas simplement pour vendre des idées. Ça, c'est la méthode Barnier. Construire en fédérant. Voilà. Et c'est vrai que ça le distingue de celui ou de celle qui est plutôt dans l'affrontement permanent pour faire valoir son point de vue. C'est peut-être pour ça qu'il est si bien à Bruxelles, où il faut fédérer pour construire, mieux qu'à Paris, où la bipolarisation de la vie politique française demande peut-être davantage des débats frontaux.
Intéressant comme analyse. Et puis, quel concert de louanges, hein. À 67 ans, est-ce qu'il a encore des projets pour l'après-Brexit? Retraite, pas retraite?
Ah non, pas retraite du tout, a priori. Hein. En fait, on parle beaucoup de lui pour présider la prochaine Commission européenne, celle qui sera choisie après les élections de mai, parce que dans une Europe divisée, au bord du gouffre, sa droiture, son profil très pro-européen, le fait qu'il parle à tout le monde aussi, tout ça, ça fait des atouts assez rares. Et d'ailleurs, quand on le voit faire quand même le tour des capitales et des dirigeants au nom du Brexit, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il est déjà en campagne.
Oui, peut-être. Un éclairage nouveau, en tout cas, sur cet homme politique savoyard, français et surtout européen. Merci beaucoup Isabelle et merci Anaïs pour ces portraits croisés de Theresa May et de Michel Barnier. Deux personnalités qui ont réussi à faire avancer un dossier difficile, sans paillettes ni fracas. À chacune et chacune d'entre vous, merci et à bientôt.
À bientôt Sophie.
À bientôt.
Europe 1.
Et c'est Joseph Chovanec qui nous rejoint dans un instant pour un petit voyage en Autistan. Joseph qui adore les aéroports, mais seulement en hiver. Il va nous dire pourquoi.
Europe 1, les carnets du monde.
Europe 1.
On ne va pas tarder à refermer les carnets du monde, sauf Flair Moyer. Il est 13h52, c'est l'heure de notre petit voyage en autistan avec Joseph Chevalet.
Le plus grand voyageur de la bande est philosophe, polyglotte et autiste Asperger. Il a la bougeotte et adore prendre l'avion. Mais toujours, il se pose pour venir nous raconter ses péripéties. Bonjour Joseph.
Bonjour Sophie, bonjour à tout le monde.
On s'approche à grands pas de l'hiver et le voyageur que vous êtes s'en réjouit. Il faut nous expliquer pourquoi.
Mais dans mes innombrables souvenirs de voyage, ce qui me fait peur, c'est le souvenir des aéroports en été. En été, les aéroports sont anti-autistiques au possible, bondés de monde avec les groupes, la cohue. Hein. Et les locaux de l'aéroport se transforment en serre sous l'effet du soleil. Et les billets coûtent considérablement plus cher.
Presque de quoi vous rendre sédentaire.
Donc c'est pour cela que les autistes voyagent en hiver. Hein. Le voyage déjà sera à portée d'une bourse d'autiste. Ouais. Mais surtout, en hiver, vous aurez plus de chances de vivre l'un des meilleurs moments de l'existence humaine, à savoir d'être totalement seul dans un hall d'aéroport, à moins que justement un autre baroudeur autiste n'ait eu la même idée. Hein. Mais c'est sur le plan climatique que les choses se passent vraiment. Le spectacle des déneigeuses est particulièrement intéressant sur le plan technique, où quand on projette les liquides dégivrants sur les avions, le bruit et les mille reflets d'ocre. La nuit, il y a le clignotement des feux de signalisation, un spectacle digne d'un autre monde. Et quand le terminal est couvert de neige, le silence est impressionnant.
Et une fois dans l'avion, alors, quand vous êtes là-haut, il n'y a plus de saison.
Oh, détrompez-vous, hein. En hiver, on a de plaisantes surprises pour un voyageur autiste, à commencer par les turbulences. Oh. Je n'ai jamais compris pourquoi les non-autistes n'aimaient pas les turbulences. Hein. J'ai des amis qui demandent avant chaque vol aux hôtesses s'il y aura assez de turbulences. Et se mettent évidemment au fond de l'avion pour les ressentir pleinement. Mais aussi, il y a les effets visuels. En bas, il pleut, neige, que sèche, mais dès qu'on passe les nuages, eh bien, on refait le stock de photons. Hein. Il faut se mettre évidemment côté ensoleillé.
Évidemment.
Hein. Ça fait une sorte de paysage polaire, hein. Une sorte de banquise blanche des nuages et le bleu du ciel.
Le reste de l'année, Joseph, quand ce n'est pas l'hiver, vous êtes un voyageur frustré alors?
Ah, mais rassurez-vous Sophie, il existe des aéroports où c'est l'hiver à peu près tout le temps. Hein. Des aéroports où la météo locale plonge les passagers dans les brumes. Mais aussi les aéroports du Grand Nord, tout simplement. J'avais pris l'an dernier l'avion depuis l'Islande vers le Groenland.
Ah oui, là.
Ou plutôt, j'avais voulu le prendre, car le vol a été bloqué plus de 24 heures au décollage à cause des conditions météo apocalyptique à destination. Il y soufflait l'un de ces vents tourbillonnants qui emportent les maisons, hein, pitarakre en groenlandais.
Pitarakre. En plus, ce devait être un petit avion.
Oui, Sophie, un tout petit avion avec une poignée d'aventuriers à bord et on a fini par décoller. Un vol très agité au-dessus de l'océan polaire et puis le scintillement des flocons pris dans les phares de l'avion. Puis, pendant longtemps, l'avion avait tournoyé autour de nous quand on cherchait la piste de l'aérodrome, hésitant à se poser dans la tempête. Et puis enfin le choc violent de la piste de la Roche Noire, la carlingue qui souffre, les passagers qui comprennent que c'est leur jour de chance. Qu'est-ce qu'on ne donnerait pas pour vivre ces bons moments?
C'est flippant votre histoire, dire que certains dorment ou regardent des films dans les avions.
Ce sont les non-autistes.
Ah, c'est ça. Merci beaucoup Joseph, à dimanche prochain.
À très bientôt.
Europe 1.
C'est l'heure de refermer les carnets du monde. Merci à chacun et chacune de nous avoir accompagnés. Vous savez que le podcast vous appartient sur europe1.fr. Merci également à toute l'équipe, les reporters bien sûr, Julien Blanc à la réalisation et Florence Gimalac qui m'aide à préparer l'émission. On vous donne rendez-vous dimanche prochain dès 13h pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien.
À dimanche prochain, Sophie Larmoyer.